On va faire maintenant le tour du Canada français avec notre invité, en fait notre chroniqueur, Julien Caillouette, qui est directeur donc de Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on parle d'un rapport du Sénat qui demande à Ottawa de corriger le tir pour mieux servir les minorités linguistiques en français.
Oui, puis ça, on parle du domaine de la santé. Là, c'est le comité sénatorial sur les langues officielles a écouté 121 témoignages de francophones et d'anglophones qui vivent en milieu minoritaire là, au cours des deux dernières années. Puis les sénateurs ont entendu toutes sortes d'histoires qui allaient d'erreurs de diagnostic qui ont même provoqué des décès qui auraient pu être évités parce que les gens ne pouvaient pas communiquer dans la langue, dans leur langue préférée avec le personnel médical. Il y a deux exemples frappants qu'on rapporte dans notre article. Il y a une francophone qui a été hospitalisée au Manitoba qui parlait pas anglais, puis elle a été perçue par le personnel soignant comme une patiente difficile parce qu'elle n'était pas capable de répondre. Donc, sa pneumonie n'a pas été détectée à temps, puis elle en est décédée. Il y a une autre histoire aussi à Barrie, en Ontario, où un jeune a été admis dans un centre de santé mentale, puis il répondait pas au traitement qui était offert en anglais. L'absence de services en français dans ce cas-ci a contribué à prolonger son séjour dans le centre de santé mentale. Tu sais, au lieu de rester 3 jours qu'il aurait pu avoir besoin, il est resté 2 semaines. Donc, le rapport du Sénat contient 14 recommandations. Ça va de l'inclusion des clauses linguistiques dans les ententes fédérales avec les provinces et les territoires pour mieux financer les services en français, les emplois bilingues et les organismes touchant les santé des populations minoritaires. Parce qu'en ce moment, dans ces ententes-là, il n'y a pas d'obligation qu'une partie ou que les provinces démontrent qu'ils desservent les communautés de langue minoritaire. Il y a aussi une mesure inédite dans le rapport. On propose d'intégrer les principes de la loi sur les langues officielles, là, qui est vraiment d'appuyer les communautés linguistiques minoritaires, d'intégrer ça dans la loi canadienne sur la santé. Le genre de choses qui a apparemment jamais été fait, là, d'intégrer les principes d'une loi dans une autre. Puis finalement, on a aussi parlé à des organismes francophones pour voir ce qu'ils pensaient du rapport. Puis on est en général satisfait. Puis ça, c'est un rapport qui va pouvoir être cité pendant longtemps, donc on ne veut pas qu'il soit mis de côté. La Société Santé en français, elle est heureuse de la recommandation, entre autres, d'accélérer et de simplifier l'obtention des visas pour les professionnels de la santé qui sont bilingues ou francophones.
Oui, et puis, on va aller dans un autre sujet, mais quand même, la sécurité dans les gymnases scolaires est questionnée. C'est la Voix acadienne qui parle de ça aujourd'hui.
Oui, parce qu'une mère de l'île du Prince-Édouard, dont un des enfants était comme pendant un cours d'éducation physique, a été projeté contre le mur de béton du gymnase pendant une activité. Puis, elle se demande si les normes de sécurité sont suffisantes dans la province pour les gymnases. Avec une demande d'accès à l'information, elle a pu constater qu'entre 2015 et 2025, il y a en moyenne 4 enfants par année qui se sont blessés après avoir frappé le mur de béton du gymnase dans les 6 écoles francophones de l'île du Prince-Édouard. Du côté anglophone, c'est une moyenne de 8 par année dans tout le système scolaire anglophone. Mais bon, il n'y a pas d'informations sur le niveau de gravité des blessures. Est-ce que c'était des commotions cérébrales ou juste un bleu? On ne sait pas vraiment, là, qu'il y a quand même un jeu ici. Les règles de la province demandent d'avoir des matelas derrière les paniers de basketball pour protéger les élèves, mais c'est la seule mention de sécurité de ce genre-là. La meilleure question, on ne veut pas nécessairement qu'on mette des matelas partout sur tous les murs. C'est pas ça la question, ça serait peut-être exagéré. Mais elle se demande justement, les accidents n'arrivent pas seulement autour des paniers où on dit qu'il faut mettre des matelas, mais il y en a ailleurs aussi, donc pose la question, est-ce qu'on devrait réviser, est-ce qu'on devrait réévaluer pour que les enfants soient mieux protégés?
En effet. Il y a les vraies raisons du retour au bureau des fonctionnaires en Ontario, selon le droit. Il y a des vraies raisons à ça.
Oui, parce que, en fait, ce que Doug Ford disait pour justifier le retour au bureau l'année dernière, c'est que ça allait augmenter la productivité et que tout le monde allait mieux travailler puis ça allait plus vite. D'ailleurs, il a répété ça lundi cette semaine. Mais le droit a obtenu des documents qui révèlent que le ministère responsable du retour au travail dans les bureaux du gouvernement de l'Ontario n'était pas d'accord avec cet argument-là. Puis ils n'ont aucune preuve qui permette de l'affirmer. Fait que Même les messages des responsables des communications qui ont été fournis à Mme Caroline Mulroney, qui est ministre du Travail, souligne que la décision n'a rien à voir avec la productivité, puis que elle, en entrevue, disait que c'était le message, en fait, lui disait que c'était plutôt pour que les services opérationnels soient représentatifs des personnes et des entreprises que le gouvernement dessert. Donc, en gros, les entreprises reviennent de plus en plus dans les bureaux, on a de moins en moins de télétravail, donc le gouvernement doit suivre et faire la même chose. Et ce message-là a finalement jamais vraiment été utilisé par la ministre pour justifier la décision, mais elle n'a jamais non plus, la ministre, confirmé que les raisons données par Doug Ford étaient bonnes ou mauvaises non plus, elle ne l'a pas contredit. De leur côté, les représentants syndicaux à qui il a droit à parler, ils rappellent que c'est pas démontré que, hors de tout doute, que le travail au bureau est plus productif. Ce qu'ils se demandent, c'est si Doug Ford, qui a une expérience plus entrepreneuriale, plus manuelle du travail, est capable d'imaginer qu'on peut être productif quand on n'est pas au bureau. Il y a toutes sortes de situations où ça peut être le cas. Ils se demandent aussi si c'était pas une raison pour remplir les tours à bureau du centre-ville de Toronto qui sont plus vides qu'avant la pandémie, évidemment.
Et puis c'est dur pour les commerces autour, les restaurants, entre autres choses. Oui. Oui. Le retour tant attendu des services d'aide à l'emploi en français en Colombie-Britannique.
Il y a deux nouveaux centres de services pour le programme Emploi Colombie-Britannique qui vont s'ajouter cette semaine aux quatre qui ont été ouverts depuis le mois de novembre. La Colombie-Britannique avait des services d'aide à l'emploi en français dans le passé, mais ils ont perdu tout leur financement en 2012, donc ça fait plus de 10 ans qu'il n'y en a pas. Depuis, il y a eu une bataille avec la province, bataille juridique et autres négociations pour récupérer, puis c'est maintenant chose faite. Les services qui vont être présents dans ces six villes seulement, puis il n'y a pas de composante en ligne, mais les responsables des services disent qu'ils vont pas refuser d'aider des francophones qui appellent d'ailleurs en province. On va faire le possible, ils vont faire leur possible pour les aider, pour leur donner des services. Puis ces services-là, de mettre les chercheurs d'emploi en contact avec des employeurs, mais ils peuvent aussi apprendre à, surtout les immigrants et les nouveaux arrivants, ils peuvent apprendre à mettre leur CV à jour, mieux connaître les coutumes de recherche d'emploi au Canada, comment se présenter devant un employeur et ce genre de choses qui sont pratiques à savoir quand on cherche un emploi.
Et puis enfin, la Arviat au Nunavut qui aura son université.
C'est la communauté d'Arviat, c'est sur la côte ouest de la baie d'Hudson, là, c'est collé au continent, c'est pas sur les îles du Nord comme Iqaluit. Ils vont accueillir le campus principal de la future université d'Inuit Nunangat, qui devrait ouvrir en 2030. Ça va être la première université dirigée par des Inuits et la première aussi université dans l'Arctique canadien. Il y a des objectifs d'offrir aux étudiants des études supérieures enracinées dans la langue et la culture Inuit. Selon les premières projections, l'école devrait accueillir une centaine d'élèves et compter 80 membres du personnel pour les appuyer. Puis on espère aussi que l'université aura d'autres impacts positifs. Par exemple, il va falloir améliorer certaines infrastructures et renforcer le système d'éducation même du Nunavut pour préparer les élèves à pouvoir fréquenter cette université-là, parce qu'en ce moment, vu qu'il n'y a pas d'université dans les territoires, c'est moins un parcours recherché par les jeunes élèves.
Bien, c'est intéressant tout ça, Julien Caillouette, donc rédacteur en chef de Franco-Presse. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.